Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos.
L'invité de Fenêtre sur l'Afrique de ce soir est le docteur Yves Ikuya Maizo, qui vient de sortir un livre intitulé, je viens de l'annoncer en début d'émission. Le livre est intitulé « Crise financière mondiale, des réponses alternatives de l'Afrique ». Docteur Yves Ikuya Maizo, d'origine togolaise, est une personnalité influente de la diaspora africaine. Sa formation multidisciplinaire de haut niveau, tant en économie, en droit, qu'en gestion des entreprises et ses activités d'enseignement, de conseil, de réflexion et d'influence, font de lui une personnalité politique reconnue tant par la population et la diaspora africaine que par les décideurs de l'Afrique et d'ailleurs. Le paradigme de dépendance économique et financière ne suffit plus pour expliquer la complexité d'une crise systématique touchant les nations africaines. Rupture avec l'économie palliative, rejet d'une Afrique conçue comme la vigilance à l'égard du piège contenu dans le concept de réduction de la pauvreté qui n'est pas du tout synonyme de création de richesses partagées, neutralisation des solutions ou dites universelles, tels sont les préalables. Mais que proposer face à la désarticulation avancée de l'économie africaine qui peine à organiser son unité monétaire, voie privilégiée pour retrouver sa souveraineté monétaire? Les réponses suggérées sont modulables et reposent sur des contre-pouvoirs et passent par un pacte africain de soutien au pouvoir d'achat et à la création de la prospérité économique. L'Afrique doit retrouver alors les mécanismes d'anticipation afin de limiter les arbitrages stratégiques allant à l'encontre de ses propres intérêts. Ainsi donc est libellée la préface du livre du docteur Yves Ikuya Maizo, Crise financière mondiale, des réponses alternatives pour l'Afrique.
Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat. Sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K.
Eh bien, j'espère que Dr Yves Ikuya Maizo est en ligne en direct depuis Vienne en Autriche. Nous allons le recevoir tout de suite. Dr Yves Ikuya Maizo, bonsoir.
Merci
d'être l'invité de Fenêtre sur l'Afrique pour discuter de votre livre Crise financière et des réponses crise financière mondiale des réponses alternatives de l'Afrique. Alors Yves Ikuya Maizo, je le disais que vous êtes économiste et vous êtes consultant international et c'est justement à ce titre que vous venez de publier en 2010 un livre intitulé Crise financière mondiale des réponses alternatives de l'Afrique aux éditions Ménébuc à Paris. Alors pourquoi part-on depuis quelques années de crise financière mondiale, Dr Yves Ikuya Maizo?
La première réponse, c'est qu'il y a une crise financière. Pour être très simple, ce sont des acteurs comme vous et moi qui avons des difficultés financières, c'est-à-dire nous avons du mal à payer des engagements vis-à-vis de nos créanciers. Pour être très simple, en l'espèce, cette crise a commencé en fait aux États-Unis. 2007-2008. Il s'agissait des ménages, des gens comme vous et moi, des gens ordinaires, qui ont été pris à la gorge par des prêts usuriers. Et ces prêts étaient dus à un manque de régulation de l'État américain. Et cela a entraîné des faillites de l'ensemble de ces ménages, donc, qui se sont engagés, dans, par exemple, dans les logements, qui n'ont pas pu payer, qui généralement ont perdu leur pouvoir d'achat ou tout simplement leur emploi. Mais cela a entraîné, puisque le nombre était important, des institutions de prêts, donc des banques et autres, qui étaient liées et qui avaient donc fait des prêts. Ça a très vite contaminé les entreprises privées et les structures bancaires, voire des assurances, des fonds de pension, etc., qui, l'ensemble de ces structures, ont spéculé sur la capacité des gens, donc les ménages, à rembourser ou à honorer leur engagement. Vous voyez donc la spirale se mettre en œuvre. Ça, c'était au sein des États-Unis. Très vite, on est dans un monde interdépendant, et à ce moment-là, ça a touché ceux, d'ailleurs, Europe essentiellement, qui ont joué le jeu et qui ont trouvé là une occasion de faire beaucoup d'argent en plaçant et en croyant ce que disaient les États-Unis, en tout cas l'ensemble de ces structures, qu'on allait faire beaucoup d'argent sur le dos, en fait, des populations qui, normalement, n'auraient jamais dû avoir obtenu des prêts. Pour être très simple, vous ne pouvez pas, en principe, dépasser 33% de votre capacité d'endettement. Voilà que, dans le cas des États-Unis, en 2007, la plupart des ménages concernés étaient autour de 50 à 70%. C'est-à-dire concrètement, quand vous avez un salaire, 50 à 70% de votre salaire part dans le remboursement, et bien sûr, vous ne pouvez pas vous en sortir. Mais le fond du dossier, c'est qu'il y a eu une priorité donnée à la dérégulation et les opérations hors bilan des banques. Beaucoup de gens ne savent pas ça, que beaucoup d'opérations sont faites hors bilan. Vous ne savez pas en fait ce qui se passe. Des banques officielles, et qui sont, donc échappent au contrôle des systèmes des États, et c'est qui a permis l'introduction d'un certain nombre d'actifs financiers qui n'étaient pas, disons, sérieux ou étaient même valables, qu'on appelle l'actif toxique. Donc le fait de ne plus être en mesure d'honorer les engagements pour les ménages, tout cet espace-là est rentré dans les comptes des banques, dans les institutions, et a entraîné la faillite de telle ou telle banque, au point où l'État, qui généralement devait garantir, ne pouvait même plus subvenir à tout ceci. Donc il a dû intervenir comme un pompier. Il est, il faut le savoir, ce qu'on appelle nous les prêteurs en dernier ressort. Et l'État américain qui a dit qu'il ne faut en fait pas intervenir est intervenu. L'État américain, pour le General Motors, pour prendre cet exemple, est intervenu, donc en fait a nationalisé pour un court instant. Vous savez. Et donc c'est très important de bien comprendre le mécanisme tel qu'il est en train de s'organiser et de montrer. Alors, il y a d'autres volets, bien sûr, mais comme on n'a pas beaucoup de temps,
bien
je veux
sûr.
Pas, j'essaie de vous faire comprendre.
Exactement, exactement. Alors, selon vous, docteur Yves Kouyamaïso, dans la résolution de la crise mondiale de 2008, l'Afrique n'est en rien responsable de la misère de l'Europe. Alors, l'Afrique doit-elle refuser de payer sa dette et y ajouter partiellement celle des pays riches, justement parce qu'elle n'est pas responsable? Pourtant, nous vivons dans un monde indépendamment et interdépendant. Hein. Alors, comment est-ce que cela est possible, docteur Yves Kouyamaïso?
Votre deuxième question est liée à la première. Je vais compléter la première. C'est-à-dire qu'en fait, la crise financière, elle perdure jusqu'à aujourd'hui. C'est pas des nouvelles crises, c'est la même qui continue parce qu'on l'a pas résolue. Et comment l'État, les États essaient de résoudre cela? En socialisant les pertes. C'est-à-dire que là où quelqu'un a mal géré, une banque par exemple, ou un État, ben on essaie tout simplement de le mettre ensemble, cette dette, et de faire payer tout le monde ensemble. C'est ce qu'essaie de faire l'Europe, et ça ne fonctionne pas parce qu'ils n'ont pas un fonds monétaire européen. C'est ce que l'Afrique n'a pas encore fait parce qu'il n'a pas de fonds monétaire africain. Alors, ce qui revient à payer, donc, l'État, donc, à payer pour les banques qui ont mal géré. Il faut bien comprendre ça. Et qui sont aujourd'hui ceux qui, en fait, soutiennent la croissance mondiale? C'est les pays émergents, c'est les pays africains. L'Afrique, d'ailleurs, à 5%. C'est en comprenant ça que vous allez pouvoir répondre à votre deuxième question. Parce que si on n'est pas responsable d'un certain nombre de dettes, à ce moment-là, pourquoi devrait-on normalement le payer? Non. Vous savez, il y a des dettes publiques qui sont les dettes de l'ensemble des administrations publiques, qu'on retrouve dans les comptabilités nationales de nos États. Et l'ensemble de la dette consolidée, c'est qu'il y a une dette long terme et une dette court terme. Ce qui se passe en réel, c'est que vous avez un certain nombre de dettes, les dettes extérieures, où vous avez une obligation de payer en termes d'urgence plus rapide que la dette intérieure, par exemple. Pour être concret au Togo, le gouvernement togolais a plus intérêt à payer rapidement le Fonds monétaire international et l'ensemble des bilatéraux plutôt que de s'occuper à payer la dette des entrepreneurs locaux qui ont travaillé et que l'État n'a pas payé. En fait, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Malheureusement, compte tenu des pressions, l'État fait ce qu'il peut et les États africains en premier. En Amérique latine, un certain nombre d'États ont décidé que non, nous allons d'abord payer nos entreprises locales, puisque c'est elles qui créent de l'emploi. Et quand ils ont redéfini les dettes, ils ont regardé comment elles formaient cette dette. Donc vous avez ce qu'on appelle des dettes iniques. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un a créé une dette à partir de la corruption. Il y a beaucoup de cas en Afrique. Vous avez des dettes qui sont liées par exemple au mauvais arbitrage. Hein, par exemple, au Togo, on fait une route, et 5-6 ans après, la route finit dans la mer. C'est un mauvais arbitrage, parce qu'on aurait dû penser plus tôt de ne pas faire une route qui, demain matin, va finir dans la mer, puisque le coût de cette route-là, il faudra bien le payer quelque part, etc. Donc, tout cela fait que le classement de ces dettes fait que certaines dettes sont refusées, et ils ont même amené ça en procès, ils ont gagné même leur procès. Il y a même une dette que les gens oublient, c'est que la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international, ce sont ces institutions qui ont conseillé nos États en remontant 10, 15 ans, 20 ans dans le plan d'ajustement structurel. Et on peut même aller jusqu'à dire, mais si vous nous avez mal conseillé, donc c'est à vous de payer cette dette-là. Donc certains pays d'Amérique latine sont allés jusque-là. Malheureusement, en Afrique, nous n'avons quasiment aucun cas comme ça. Les Africains sont au fond, en termes de gouvernement, dû à des pressions, mais en fait, au fond, si on compare à l'Amérique latine, des peureux, on n'a pas osé collectivement se mettre ensemble, de classer ces dettes et de choisir un certain nombre de dettes qu'on ne peut pas et qu'on ne voudrait pas payer. Ça, c'est très important à comprendre cela. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est, disons, négatif dans le sens général. C'est qu'il faut bien rendre responsables ceux qui nous ont mal conseillés. Mais pour le faire, il vous faut ce qu'on appelle une marge économique. Vous devez avoir des moyens politiques et des moyens économiques pour pouvoir dire non, pour pouvoir choisir telle ou telle dette, et donc aussi faire un procès, parce qu'il faut de l'argent. Les Africains, pour le moment n'ont pas investi dans ce secteur-là. Mmh. Et du coup, ben, ils n'arrivent pas à s'en sortir là-dessus.
Oui, docteur Yves Ekouyamaïso, et nous allons prendre notre collaborateur Romé Koudodi, qui a quand même pris le temps de lire votre livre, Crise financière mondiale, des réponses alternatives pour l'Afrique. Et Romé est en ligne en direct depuis Beaune. Romé.
Oui, docteur Ekouyamaïso, bonsoir.
Bonsoir, Romain.
Dirichef, je tiens à vous tirer mes chapeaux pour la pertinence de vos argumentations soutenues dans votre livre. Mais par ailleurs, me basant sur des éléments de votre publication, la crise mondiale de 2008 n'est que le début d'une crise profonde qui peut se prolonger jusqu'à 40 ou 50 ans. Ne faites-vous pas quelque part l'oiseau du malheur ?
Vous avez peut-être pas tort, mais vous savez, je suis optimiste de nature. En économie, nous travaillons avec des statistiques et avec des chiffres et avec des projections. Donc quand on projette sur le futur, ce n'est pas être un oiseau de malheur, c'est simplement dire la vérité. Et par exemple, nous avions que l'Europe allait rentrer en récession tôt ou tard. Je peux vous dire qu'en 2012, l'Europe sera en récession. Peut-être pas tous les pays, mais une bonne partie des pays, y compris la France d'ailleurs. Récession, c'est quoi ? C'est que vous avez deux ou trois trimestres de suite, une croissance négative, en fait, soit de votre produit intérieur brut, soit même de votre production industrielle. Alors, c'est assez facile à faire, puisque si vous passez votre temps à délocaliser et que la somme de la richesse ne revient pas dans le pays, vous ne créez pas d'emploi, vous ne créez pas de pouvoir d'achat, c'est assez rapide. Alors, ce qui se passe, ce sont les effets collatéraux de ce problème vers l'Afrique qui nous intéresse. En fait, ce qui va se passer, c'est que, comme nous commerçons beaucoup avec l'Europe, mais de plus en plus avec la Chine, mais cette Europe-là ne pourra plus nous offrir beaucoup de crédit. Et ce resserrement de crédit va faire que si l'Afrique ne se tourne pas très vite vers l'Amérique latine et vers l'Asie, pour avoir d'autres crédits fournisseurs ou acheteurs, il se peut que nous ayons des blocages, ce qui va certainement ralentir notre croissance, peut-être même la faire baisser, suivant la façon dont nous travaillons. Ça, c'est une chose. Deux, c'est que l'Europe n'est pas prête de sortir de sa crise. Ça va durer, en tout cas, au moins 10 ans. Au moins 10 ans. Ne vous faites pas de soucis là-dessus, parce qu'il en faut un fonds monétaire européen qu'ils ne veulent toujours pas encore créer, parce que c'est pas en fait un État fédéral. Et du coup, il n'y a pas une collectivisation de ces dettes qui permet de réagir en temps réel pour bloquer les marchés. Et comme ils n'ont pas fait ça, ben écoutez, ce sont des discussions politiques, et vous savez que les politiques en économie sont souvent plutôt incompétents, et ils n'écoutent pas souvent d'ailleurs les vrais conseils. Il se peut même que l'Europe soit coupée en deux d'ailleurs, les pays disons vertueux, qui gèrent bien et qui sont sérieux, et les moins sérieux, qui les gèrent moins bien, ou en fait, qui n'arrivent pas en fait à s'en sortir, et ça ressemble plus au cas africain. Donc je reviens à ce que vous dites, oui, ça va durer longtemps, oui, en Europe, il y aura vraisemblablement une récession, oui, ils vont mettre du temps pour pouvoir se relever, oui, ça aura une conséquence sur l'Afrique en général, il faudrait voir pays par pays, et à ce moment-là, oui, si nous ne nous diversifions pas, surtout si nous ne changeons pas notre mode de création de richesse, c'est-à-dire que si nous ne créons pas à partir des capacités productives de la richesse nous-mêmes, et donc de l'emploi, et donc si nous ne distribuons pas aussi un pouvoir d'achat, donc des salaires décents, alors l'Afrique risque d'avoir des difficultés. Et la croissance que nous avons aujourd'hui de 5% pourrait rapidement diminuer. Le Togo va peut-être arriver à 3,5 ou 4, mais sincèrement, si le Togo ne fait pas plus d'efforts vers l'industrialisation, dans les 7 à 10 ans à venir, certainement que les choses seront beaucoup plus difficiles encore.
Et Romain, si vous avez encore des préoccupations, Romain, continuez, Romain.
Notamment à la page 15 de votre livre, Dr. Amaïso, on peut remarquer aisément que vous dénoncez l'allègement de la dette africaine comme des opérations d'écriture comptable qui permettent à l'Afrique de se réendetter assez facilement. Pourriez-vous être plus explicite ?
Oui, c'est un peu complexe. Je vais vous l'expliquer assez simplement. Il y a en fait deux problèmes. Vous savez, personne n'est contre le fait d'effacer sa dette. Si vous êtes endetté, que moi, vous me devez de l'argent, si je l'efface, vous serez content. Mais le problème, c'est que... si j'efface, c'est que moi, j'ai un problème. Il faut bien que l'argent rende. Donc, vous ne savez pas à quelles conditions, moi, je peux vous effacer une dette ou faire une réduction de dette. Et donc, si je propose de réduire la dette du Togo et qu'en contrepartie, je demande de privatiser les capacités productives du Togo ou les institutions financières, ce qui est le cas aujourd'hui, la plupart des banques togolaises sont en privatisation, ça veut dire que l'ensemble des dettes qu'ont fait ces banques-là, c'est l'État qui va se les récupérer, sinon personne n'achète ces banques-là. Et donc, si cela va venir grossir la dette et que demain matin, j'ai une réduction de dette, mais en contrepartie, j'ai perdu la propriété, je ne suis plus actionnaire dans ces banques, est-ce que ça devient intéressant pour le Togo ? Prenons un autre exemple, le port du Togo. Est-ce que ça vaut le coup que le port du Togo soit géré par quelqu'un d'étranger au Togo? Ce qui veut dire que 80% ou plus des bénéfices du port du Togo ne profitent pas à l'État togolais, encore moins aux populations togolaises, mais en fait à un acteur privé que vous connaissez tous, c'est Bolloré, etc. Donc il faut faire très attention, et c'est pour ça que je dis que quand on fait ces réductions au niveau comptable pour un pays, le Togo est passé, je ne me rappelle plus les chiffres, mais environ à peu près de 68% à 27% ces derniers temps, dans le cadre des programmes avec la Banque mondiale, ça veut dire que le Togo peut maintenant se réendetter. Mais si c'est parce que le Togo a mal géré qu'on lui a maintenant réduit sa dette, vous imaginez que ceux qui vont gérer de nouveau le futur du Togo ne vont pas se gêner à refaire une mauvaise gouvernance économique et du coup, et attendre dans 5, 10, 15, 20 ans qu'on leur fasse de nouveau une réduction de la dette. Donc c'est un encouragement à mal gérer, c'est un encouragement à la mauvaise gouvernance, et c'est ce que je dénonce dans le livre.
Oui, Dr. Yves Ekouya Maïso, merci pour vos explications très pertinentes. J'espère que nos auditeurs sont bien éclairés. Mais avant que moi, je ne continue avec mes questions ici, je vais quand même relancer encore une fois à Romain. Et j'espère que Romain a encore d'autres questions à soumettre au Dr. Yves Ekouya Maïso.
Par ailleurs, Dr. Yves Amaizo, à la page 50 de votre publication, dans votre proposition de réponse alternative de l'Afrique, vous affirmez que la régularisation de la crise sans l'État ou avec un État affaibli est une erreur économique. Quels sont vos arguments qui soutiennent cette affirmation?
Bon, vous avez certainement pas bien lu parce que je parle de régulation et non pas de régularisation. Régularisation, c'est plutôt pour les cartes de séjour. Là, c'est la régulation, le fait de réguler un système, avoir des règles plutôt transparentes qui permettent à chacun, investisseur ou autre, de pouvoir s'organiser pour investir ou pas dans un pays. Alors, soyons bien clairs sur la notion de régulation. Vous savez, en gros, hein, depuis le 18e siècle, l'économie occidentale qu'ils ont amenée en Afrique est basée, en gros, hein, sur le laisser-faire, ce qu'ils appellent la main invisible. C'est-à-dire que l'ensemble des acteurs du marché finiront, tôt ou tard, par trouver un équilibre sur le fait d'acheter ou de vendre un prix. Vous allez à un marché, vous voulez acheter une tomate, à l'entrée du marché, elle vaut 100, à la fin du marché, elle va valoir peut-être 10 ou 30, parce que les gens veulent se débarrasser de cette tomate, et s'ils le gardent, demain matin, elle sera pourrie. Donc vous voyez que le prix va varier au cours, mais le marché va finir par niveler le prix au fur et à mesure de votre marché. Cette loi concurrentielle qui est valable et qu'il faut absolument soutenir, mais malheureusement, en fait, les États ne le respectent pas. Les États occidentaux, si vous regardez bien l'histoire et qu'on a bien travaillé, ben, ils ont passé leur temps à faire de l'interventionnisme. Tout le temps. Mais ils prêchent aux autres, notamment africains, justement d'ouvrir nos marchés, justement de laisser faire, justement d'avoir la main invisible. Si nous laissons faire, vous avez la canne à sucre aujourd'hui. Si je laisse faire, vous n'allez jamais produire du sucre. Si je laisse faire le café et le cacao de Côte d'Ivoire, vous n'allez jamais produire des cafés en boîte ni du chocolat à manger, etc. Il faut donc transformer. Donc le laisser faire fait que celui qui est plus fort que vous, qui a déjà une avance technologique, ben, il ne va jamais vous laisser développer vos industries. Il ne va jamais faire en sorte que vous puissiez vous organiser. Donc l'État doit intervenir. Mais l'État doit intervenir pour soutenir son industrie. Pas l'État doit intervenir pour empêcher ou casser cette industrie. Et c'est ce que fait certains chefs d'État africains. Je ne veux pas les citer ici. Et c'est ça le gros problème en fait. Même les investissements qui se font, le capital investissement, j'ai même une grande conférence dessus dans quelques semaines à Paris, mais justement, il pose un problème aujourd'hui parce qu'il y a certains qui soutiennent justement cette production et la transformation et la diversification, d'autres pas du tout. Donc il faut faire attention à qui on choisit. Et comme les États certainement ne vont pas dans le détail de leur analyse, mais ils aiment l'argent rapide et cash, et 5-10 ans après, ça leur crée des problèmes assez importants.
Et docteur Yves Ekouya Maïso, et vous êtes de ceux-là hein, qui soutiennent que l'Afrique, ou du moins les États de l'Afrique de l'Ouest, doivent créer leur propre monnaie. Alors comment cela est-il possible sans conflit d'intérêts? Et si cela est possible, pensez-vous que ce soit possible dans ce monde de globalisation de confier la création de monnaie, source d'indépendance économique, à une institution étrangère?
Alors, il y a plusieurs parties de votre question. D'abord, vous ne pouvez pas, vous, être autonome, indépendant, sans maîtriser votre souveraineté monétaire. Non, il vous faut une monnaie.
Bien sûr, oui.
Bon, donc, une monnaie, c'est pas une monnaie unique, comme les parties uniques, non, c'est une monnaie commune. Nous devons être d'accord sur des règles de fonctionnement à l'intérieur d'une zone, qu'on appelle nous les critères de convergence. Il faut savoir les fixer. Il ne faut pas aller prendre des critères de convergence de l'Europe comme a fait aujourd'hui l'UMOA ou comme a fait la CDAO. C'est complètement idiot. Mais il faut choisir ce que nous pouvons soutenir, pour qu'on parle de développement soutenable. Donc ça, c'est la première chose. Si nous nous mettons d'accord sur ces règles-là, nous allons les respecter. L'Europe, par exemple, ne s'est pas mis d'accord au départ, au fond, sur les critères de Maastricht pour donner, par exemple, des dettes, des taux d'endettement ne dépassant pas 3%. Ils sont tous à 7, 8, 6, 9% pour la Grèce, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas concertés sérieusement. Ils ont imposé quelque chose que eux-mêmes, la France et l'Allemagne en tête, n'ont pas respecté. Donc vous voyez qu'il ne faut pas penser monnaie commune comme l'euro, il faut penser, monnaie unique comme l'euro, mais monnaie commune. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez besoin de souveraineté. Vous pouvez, avec votre monnaie, faire en sorte que le prix de vos matières, quand elles sont à l'exportation notamment, varie. Vous les augmentez, vous les baissez, par la dévaluation par exemple, pour faire que quand vous avez un plus grand volume, vous allez vendre plus facilement sur le marché. Parce que vous allez entretenir vos entreprises, vous allez entreprendre la création d'emplois chez vous. Si vous avez une monnaie qui est fixée par rapport à une autre monnaie, qui est le cas du franc CFA, qui en plus n'est pas votre monnaie, puisque la France a un droit de veto à l'intérieur du franc CFA, ça veut dire que vous êtes en fait en train de soutenir indirectement la France. Sachez d'ailleurs que ça ne passe même pas par la Banque de France, mais bien par le Trésor français. Donc la France, en fait, nous fait un découvert, entre guillemets, parce que cette monnaie n'est pas convertible, vous ne pouvez rien en faire à l'extérieur aujourd'hui, vous devez passer par l'euro. Et donc, du coup, tout ce que nous faisons à l'intérieur de la zone, au fond, c'est pour profiter essentiellement à Paris. Il y a un troisième point très important, c'est que comme c'est fixe et que l'euro est surévalué aujourd'hui par rapport à nos activités et aussi par rapport au dollar, au fond, ça veut dire qu'un Européen qui vient chez nous, il gagne 30, 40, à 50% de plus en venant chez nous acheter. Et exactement le contraire, quand nous allons là-bas avec quelqu'un qui a travaillé en France CFA, écoutez, il perd 30, 40%. Donc voilà tous ces éléments qui font qu'il faut, oui, une monnaie. Deux, il faut qu'elle soit commune au niveau d'une région, parce que le petit pays ou le petit Bénin ne peut pas faire grand-chose. Il faut l'ensemble des 16, 15 pays de la CEDEAO puissent se mettre ensemble. Nous savons qu'il y a des difficultés anglophones, francophones. Nous savons qu'il y a des guerres entre le franc CFA et les autres monnaies. Pourtant, regardez le Ghana voisin. Tout le monde rigolait du Ghana il y a 20 ans, 25 ans. Même au Togo, on se moquait de leur monnaie, les Sidi. Même les Ghanéens venaient et croyaient qu'ils étaient mieux en franc CFA. Aujourd'hui, vous savez, tout le monde quitte la Côte d'Ivoire avec son café cacao, vient prendre le Sidi et pour le vendre. Donc ça veut dire que si les Ghanéens ont bien géré, le Togo aurait pu bien gérer aussi. D'ailleurs, le Togo voulait créer sa monnaie en 63, et c'est ça qui était à la base de l'assassinat de Sylvanos Olympio.
Docteur Yves Ekwe Amaizo, pensez-vous à la pertinence de la thèse de la malédiction des ressources naturelles, un livre écrit par un général français qui soutient que pour plusieurs raisons, être richement doté en ressources naturelles est un frein au développement?
J'ai eu à parler avec ce général dans une émission d'ailleurs avec Radio France Internationale. Il n'y a aucune pertinence, je dis bien aucune pertinence dans la thèse de ce général sur la malédiction des ressources naturelles. D'ailleurs, c'est très simple, si les ressources naturelles étaient si maudites et étaient une malédiction, imaginez que les ressources se retrouvent à Marseille, Bordeaux, Lyon ou Paris, je suis sûr que le président français ne va pas avoir une malédiction. Imaginez que vous voyez ça en Italie ou en Allemagne, je suis sûr que ce n'est pas une malédiction. Autre élément, si c'était une si grande malédiction, pourquoi les Occidentaux se lèvent tous les jours que Dieu fait pour courir après la malédiction qui est le pétrole, qui est le café, qui est le cacao, et en plus de le prendre à bas prix? Non, ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas la matière ou les ressources naturelles qui sont un problème. C'est, en fait, la gestion des recettes tirées de cette matière première. Quand vous vendez le phosphate togolais, quand vous vendez le café, le cacao de la Côte d'Ivoire, ou d'autres pétroles ici et là, vous recevez une recette. Cette recette-là, qu'est-ce que vous en faites? D'abord, quand vous le vendez, combien on revient au pays? Le Gabon, par exemple, c'est même pas 15 ou 20%. 80% part à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui vous revient d'abord? Et ce qui vous revient, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que l'argent ne peut pas quitter directement le port pour aller financer tout simplement la santé, un hôpital dans telle ou telle région du Togo? Voici les problèmes qui se posent. Donc, c'est un problème de gouvernance, tout simplement. Et bien sûr, si ce problème de gouvernance n'est pas géré, les gens vont vite en besogne pour dire non, c'est une malédiction. C'est archi faux. C'est archi faux.
Oui, et docteur Yves Ekwe Amaizo, avant de clore cet entretien avec vous, et nous parlons avec vous de votre livre intitulé « Crise financière mondiale, des réponses alternatives de l'Afrique », je vais devoir donner encore la parole à Romain, et notre collaborateur de Beaune. Romain?
Justement, parlant de ce livre assez intéressant, docteur Ekwe Amaizo, vous avez parlé de plus d'implication de la diaspora africaine dans la résolution de la crise économique de 2008 et surtout sur les répercussions de l'Afrique. Comment est-elle possible?
Écoutez, la diaspora d'abord, c'est une région du Togo, c'est une région de l'Afrique et ça a été officialisé par l'Union africaine. Deux, il se trouve que nous sommes très nombreux dans cette diaspora aujourd'hui et nous faisons largement plus du sixième en termes de population. D'ailleurs, le Togo, le gouvernement refuse toujours de nous compter. Donc, officiellement, nous n'existons pas. Nous sommes des fantômes pour le gouvernement togolais. Donc, mettant ça étant mis à part, nous contribuons. Non seulement nous envoyons de l'argent, mais nous avons des ressources intellectuelles. Nous avons accès aussi à ces ressources intellectuelles. Nous savons où les trouver. Malheureusement, le fondement de tous les problèmes des sociétés de développement, notamment africaines, c'est qu'ils ne supportent pas utiliser l'expertise des Africains, que ce soit d'abord intellectuel. Ils ne supportent pas non plus les contacts, parce que les contacts aussi permettent de créer, de développer et attirer les investisseurs. Et puis un troisième problème derrière cela, c'est que cette diaspora est amenée à avoir un rôle politique. On le lui refuse. Vous savez, le continent africain, le Togo en particulier, sont ceux qui ont toujours manqué de résoudre par deux fois le développement. Première fois, ils ont détruit le secteur privé depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Vous allez voir que la plupart des pays africains qui sont en retard de développement, c'est ceux qui ont détruit le secteur privé. Deuxième élément, c'est les mêmes qui ont détruit l'essor de la diaspora africaine, leur propre diaspora, soit pour revenir ou demander conseil auprès de ces diasporas. Et trois, ce qu'ils font encore de pire, c'est que certains s'amusent à les utiliser, c'est-à-dire qu'ils font quand même appel à cette diaspora. Je ne vais pas les citer les pays, mais il y en a quelques-uns maintenant. Mais une fois que la diaspora a fait ou donné une proposition, ils ne la respectent pas. Je vous donne un exemple très rapidement. Imaginez qu'un expert en mine vous dit, écoutez, pour faire un pont, il faut 100 tonnes de béton. Et ce conseil va à un gouvernement X. Maintenant, voici ce gouvernement, quand l'expert de la diaspora a donné son conseil, qui est technique, 100 tonnes pour faire un pont, le gouvernement, pour des raisons X, décide que ce sera 25 tonnes. Et il fait le pont avec 25 tonnes. Vous vous étonnez, quand la population maintenant vient avec son camion et tombe dans l'eau du fleuve, il y a un problème. On nous crie que ce sont les sorciers, on nous dit que c'est les gris-gris, on nous dit etc. Tout simplement, ce gouvernement refuse d'écouter les éléments techniques. Vous savez, en Autriche, le chancelier autrichien, c'est un cuisinier. Hein, mais il écoute systématiquement que des experts. Que des experts. Même quand les experts ne sont pas d'accord entre eux, c'est 2, 3, 4, 5, 6 options qui sont sur la table et dont vous pouvez choisir. Mais il ne modifie pas fondamentalement les éléments de base de l'expertise. Le problème de l'Afrique, c'est qu'on modifie ces éléments fondamentaux et on tombe dans l'eau, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc cette diaspora-là, c'est pas seulement une histoire qu'elle est loin. C'est une histoire que, si on veut l'utiliser de manière intelligente, politique, économique, sociale ou culturelle même, il va falloir non seulement lui faire appel, la respecter et accepter ses conditions. Mais ils ne sont pas prêts du tout, puisque le gros problème, c'est de rester au pouvoir éternellement.
Oui, docteur Yves Ekouya-Maïso, une dernière question concernant votre livre. Alors, en Afrique subsaharienne, la thèse de la malédiction a été invoquée pendant la longue période de déclin du prix des matières premières. Et alors, à votre avis, la performance médiocre des pays en Afrique subsaharienne jusqu'à la fin des années 90 est-elle attribuable à un environnement géopolitique peu propice à la croissance?
Écoutez, l'environnement n'est jamais vraiment propice. La réponse pour votre question, oui. Mais bon, l'environnement géopolitique n'explique pas tout. La mauvaise gestion, la gabegie des dirigeants africains, ils sont extrêmement irresponsables, surtout à une certaine époque. Bon, c'est en train de s'améliorer, mais quand même, quand quelqu'un se lève et ne fait pas attention et fait des trous dans son budget, c'est quand même pas l'environnement géopolitique, encore moins les Occidentaux. Il faut quand même remettre la vérité. Quand l'amélioration du prix de la matière première est là, et que l'argent rentre, et qu'on fait n'importe quoi, quand au Gabon, pendant plus de 40-50 ans, on n'a pas fait un seul hôpital sérieux, alors que c'était pratiquement un pays pétrolier, il y a quand même un problème, on ne peut pas tout dire que c'est l'environnement qui a fait ça. Donc le problème revient au même, comment sont utilisées les recettes produites par un pays? Ben, en fait, c'est un petit club, hein, quels que soient les pays francophones surtout, ce petit club en relation et en appui avec ceux de la métropole que vous connaissez, la France-Afrique, ils accaparent, et d'abord les capacités productives, deux, le pouvoir, bien sûr en dehors des règles démocratiques, parce qu'il ne faut pas se faire des idées, ils ne peuvent pas accepter les règles démocratiques. Vous savez, la biométrie a été refusée au Gabon, et vous savez, on inverse les résultats au Togo. Donc tout ça, ça va ensemble, et donc c'est tout cela, avec le soutien de l'extérieur, qui fait que finalement, c'est l'extérieur qui choisit son candidat, et le mieux, c'est un candidat qui ne sera pas suffisamment compétent pour lui tenir tête. Et voilà ce que nous avons dans nos pays actuellement.
Merci beaucoup, Dr Yves Ekouya-Maïso. Et oui, nous avons quand même pu discuter avec vous pendant de bonnes minutes. Hein. Alors, nous restez quand même en ligne, en direct avec nous depuis Vienne, puisque vous n'êtes pas que économiste, vous êtes également un acteur politique. Et avec votre permission, et restez toujours en ligne, nous allons marquer une pause musicale le temps de joindre notre correspondante Fabi Kouassi. Et puis après, vous pouvez commenter l'actualité politique au Togo avec nous. Eh bien, notre correspondante Fabi Kouassi est déjà en ligne en direct depuis Lomé et nous la prenons tout de suite.
La Saïr, elle a demandé aux Togolais de continuer à s'indigner pour dire non à la dictature implacable de Florian Simbé Allié. En effet, il était des milliers de Togolais, hein, comme le disait tantôt Sylvain, des dizaines de milliers selon le billet hebdomadaire Le Correcteur. Le quotidien Liberté parle d'une gigantesque foule et pour certaines sources, c'est 300 000 Togolais au moins. En tout cas, le fracas drainé un monde fou prouve que les Togolais comprennent qu'ils doivent se libérer, comme l'ont fait avec fierté les peuples d'Égypte de Tunisie. C'est ce qu'a souligné un septuagénaire venu au meeting. Le pouvoir de fort est-il en train de se civiliser du fait de ce siège de non-permanent Conseil de sécurité des Nations Unies, histoire de faire figure d'un État respectueux des libertés de manifestation pour avoir été épinglé soit à New York, à Genève ou encore à Banjul sur la situation peu reluisante des droits de l'homme. Autant de questions que se pose la communauté nationale et internationale. Si le pouvoir de fort qui s'est spécialisé dans l'attaque systématique des faibles décide de ne pas réprimer une manifestation du frac de surcroît en semaine, c'est aussi que la peur est en train de changer de camp, soutient une frange de la population. Les Togolais ont montré leur maturité en réclamant leurs droits de façon pacifique. Cette marche confirme que le désordre ne provient pas du peuple, s'exclame ces autres manifestants. L'autre enjeu, Sylvain, comme le scandait d'ailleurs la foule ce mercredi, là, une seule grenade lacrymogène lancée le sera au nom de la CEDEAO. Depuis donc la décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui condamne l'État à réparer la violation des droits des députés ANC et à payer des dommages, le pouvoir de Florian Simbé défie avec arrogance l'institution sous-régionale en faisant semblant d'ignorer la conjonction de coordination et qui veut dire quand même que la décision de la Cour de la CEDEAO a deux aspects. Florian Simbé choisit de dédommager les requérants sans réparer la violation des droits des députés. Jusqu'où ira ce pouvoir dans la violation des droits de l'homme? C'est le ainsi. Le froid et son allée, le Parti des travailleurs promettent des manifestations tous azimuts, notamment les 19 et 23 novembre prochains, pour faire face, pour faire entendre le cri du peuple lors de la réunion de l'Assemblée paritaire ACPE que le Togo abrite à partir du 19 de ce mois. Reste à savoir si les forces de sécurité feront usage ou non des grenades lacrymogènes. Pour l'heure, l'ANC, avec son président Jean-Pierre Fabre, poursuit sa tournée, cap sur la région centrale, avec des meetings à Sotoboa, Kaboli, Bafilo, Tchamba, Sokolé et bien d'autres villes.
Oui, Fabi, dernière actualité politique au Togo, et c'est le nouveau rebondissement dans l'affaire Kwacha Nyasimbé, le demi-frère du président Faure Nyasimbé, condamné à 20 ans de prison pour tentative de coup d'État en 2009, Fabi.
Oui, visiblement, Sylvain, ce dossier Kwacha Nyasimbé fera encore et pour longtemps les colonnes de la presse. Il nous souvient qu'au cours du procès, du simulacre de procès, selon certains, pour tentative d'atteinte contre la sûreté de l'État qui est devenu complot contre l'État au nom du fils du père, les détenus ont affirmé avoir été torturés soit à la mer, le Guantanamo togolais, ou au camp général et à des mots, ou encore à la gendarmerie. Le pouvoir cloué depuis un certain temps au pilori avec les différents rapports sur la torture a demandé à la Commission nationale des droits de l'homme de faire des enquêtes sur ce qu'il qualifie d'allégations de torture. Après une première phase qui consiste à écouter les victimes, la seconde concerne la confrontation entre victimes et présumés bourreaux. Et puis patatras, à ce stade donc, les avocats de Kwacha Eko accusés, dans une correspondance adressée au président de la Commission nationale des droits de l'homme, au ministre de la Justice, et notifié au président de la République, demande instamment que les présumés bourreaux soient démis de leurs fonctions pour un travail efficace de la CNDH. Depuis, Silence Radio, la question de la torture a été déclenchée par le cas Berthéa, dans le rappel au passage du nom de l'homme d'affaires togolais qu'on a vu menotter sur son lit de malade et qui croupit toujours en prison, appuyé par les témoignages poignants des détenus dans l'affaire de tentative de coup d'État où certains gardent encore des séquelles de ces traitements inhumains et dégradants alors que le Togo a ratifié la Convention contre la torture. Et donc, rappelons que Patel et ses compagnons de misère sont toujours en détention, soit à Tapamé, à Sokolé, à Kévi et à Lomé, condamnés pour la plupart à d'énormes peines de prison, dont 20 ans pour Patel Nyasimbé. Le général Tidiane, évacué sur Paris pour raison de santé, serait libre de ses mouvements et cela coule douce. La grande interrogation, est-ce que Faure Nyasimbé va permettre que les présumés tortionnaires soient démis de leur fonction comme le réclame le collectif des avocats pour Patel Nyasimbé et ses amis? C'est la grande interrogation et une réponse négative de la part des autorités togolaises au premier rang desquelles le chef de l'État voudrait dire que cette enquête confiée à la CNDH ne peut aboutir. Ainsi va donc le Togo.
Fabi Kouassi, merci. Eh bien, j'espère que Dr Yves Ekweyamaizo est toujours en ligne depuis Vienne en Autriche. Dr Yves Ekweyamaizo, vous êtes toujours là?
Je suis toujours là, merci.
Oui, alors l'actualité au Togo, c'est la décision de la Cour de la CEDEAO qui condamne le gouvernement togolais à réparer les dommages causés aux 9 députés de l'ANC et qui, d'après le tribunal, n'ont pas démissionné et ne sont pas exclus de l'Assemblée nationale. Et une manifestation a été organisée mercredi dernier, Fabien vient de le dire, et par l'ANC qui demande la réintégration des 9 députés. Et certains Togolais pensent que l'opposition doit mettre aussi un peu de l'eau dans son vin afin de trouver une solution politique et pacifique à part les manifestations qui n'arrivent pas à faire fléchir le pouvoir de Faure Gnassingbé. Alors, quel est votre point de vue, Dr Yves Ekweyamaizo?
Écoutez, la première chose qu'il faut dire, Faure Gnassingbé ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe, puisqu'il a une technique qui consiste toujours à dire qu'il n'est au courant de rien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous ne pouvez pas dire que certains Togolais disent de mettre de l'eau dans du vin. Ces certains Togolais dont vous parlez sont précisés. C'est les gens qui tournent autour de Faure Gnassingbé, le RPT à gauche essentiellement. Je vois mal les autres, même ceux qui sont même proches d'eux, qui ne sont pas directement chez eux, dire cette chose-là. Troisième chose, la Cour de justice de la CEDEAO a des droits qu'on appelle la subsidiarité, qui est largement au-dessus de ce qui a été dit dans l'article 106 de notre constitution togolaise. Donc, le Togo, en s'engageant qu'une structure comme la Cour de justice de la CEDEAO peut prendre une décision et accepte le principe, la recevabilité a été acceptée, le Togo doit mettre en œuvre une décision de la Cour de justice. Sinon, elle fait sauter la subsidiarité. À ce moment-là, il faut l'enlever de l'ensemble des structures de la CEDEAO, de l'UMOA, voire même de l'Union africaine, même au-delà. C'est très important au niveau du droit. Donc, il appartient de demander et d'envoyer un courrier officiel à cette Cour de justice pour lui dire et de constater si les délais sont terminés, parce qu'il y a des délais, peut-être les délais sont encore pas terminés, c'est pour ça que le gouvernement propose d'abord de payer et peut-être ensuite de réintégrer, mais si les délais sont finis, terminés, alors un courrier doit partir à la Cour de justice de la CEDEAO pour lui dire, regardez, nous constatons un refus d'exécuter l'autorité de la chose jugée, et nous demandons de condamner alors le gouvernement togolais, officiellement, ce sera une décision sous-régional, qui pourra même remonter au niveau de l'Union africaine, qui peut aller jusqu'à exclure le Togo de l'ensemble de ces institutions-là. Deuxième élément, cette pression devait faire que, tôt ou tard, on devrait réintégrer l'ensemble de ces députés-là. Je pense qu'aujourd'hui, le Togo est en train de jouer à cache-cache, parce qu'en étant au Conseil de sécurité, ils n'ont aucune chance, il faut qu'ils exécutent. C'est pour ça d'ailleurs que vous n'avez personne qui frappe les gens maintenant quand on manifeste. Du coup, les manifestations vont augmenter en nombre, parce que les gens avaient en fait peur, et ça fait 18 mois que cette histoire dure, et que la communauté internationale joue, vous fait croire qu'elle n'a rien vu, qu'elle ne voit rien, et que tous les ambassadeurs sur place passent leur temps à dire que les élections se sont très bien passées. Alors tout ça pour vous dire qu'en fait, maintenant que le fait que le Togo soit au Conseil de sécurité, le fait que la diaspora se mette à écrire directement à l'ONU, aux Nations Unies, au Parlement européen, aux parlements nationaux, aux députés et l'ensemble des communautés, des structures locales, beaucoup de gens maintenant commencent à regarder ce qui se passe. Donc on n'a pas oublié le Togo. Le Togo est bien là. Maintenant, si on rajoute à ce que je vous avais dit, c'est-à-dire les tortures qui ont lieu et des discriminations, quelle est la différence entre un Tidjani et un Pacha? Pourquoi les deux ne sont pas partis se faire soigner et se promener à Paris? Il y en a un qui va à Paris et l'autre ne l'est pas. Il faut revenir sur la fonction et la façon dont il fonctionne. Peut-être que l'un avait un passeport français, peut-être que l'autre ne l'avait pas. Dans tous les cas de figure, c'était la même communauté internationale, essentiellement la France dans le cas en espèce, qui a accepté ce genre de choses-là. Donc il faudrait à ce moment peut-être aussi écrire au secrétaire général des Nations Unies pour constater qu'il n'y a pas eu respect de l'autorité de la chose jugée et demander le retrait peut-être même du Togo du Conseil de sécurité pour abus et refus et même atteinte aux droits humains au Togo et même le fait qu'on licencie au fond des parlementaires qui sont dans leurs droits.
Oui, merci beaucoup, Dr Yves Ekweyamaizo. Malheureusement, nous tirons vers la fin de cette émission. Nous avons encore beaucoup de questions sur l'actualité politique au Togo, mais sûrement que nous allons vous retrouver très prochainement pour en discuter. Merci pour votre disponibilité à nous accorder cet entretien ce soir dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Et nous avons parlé de votre livre Crise financière mondiale et des réponses alternative de l'Afrique. Merci beaucoup, Dr Yves Ekweyamaizo. On se donne rendez-vous d'ici peu de temps.
Merci à vous. Bonne journée.